La mission finale pour sauver l'humanité a échoué. Mathilda, l'astéroïde de 110 km de diamètre, va percuter la Terre dans exactement 3 semaines. Le compte à rebours pour la fin du monde est donc lancé, mais il se fera bien entendu au son de vos classiques rock préférés.
Juste la fin d'un monde, une émission de radio sur l'écologie politique, avec des entretiens et des extraits de films et de musique.
Donc, je suis avec Marcel Duchamp, donc c'est un pseudonyme évidemment, qui est donc une membre de Extinction Rebellion et aussi qui est prof de philosophie. Et je voulais parler avec elle justement sur la question de la désobéissance civile ou comment, quelles sont les limites. Est-ce que les limites c'est la légalité? Est-ce que les limites c'est l'atteinte aux êtres humains, aux biens? Comment ça se passe en fait? Quelles sont les limites de ce qu'on peut faire ou pas faire au niveau éventuellement légal et au niveau entre guillemets moral ou politique, puisque tout ça c'est différent finalement.
Bah déjà, au niveau de la désobéissance civile, c'est une désobéissance non violente. Le principe d'extinction rébellion, c'est vraiment la non-violence. Maintenant, quand on fait des stages, parce qu'on doit, on fait tout.
Qu'est-ce que vous appelez la non-violence ?
Voilà, quand on fait des stages de désobéissance civile, parce qu'il faut en faire, hein, on y apprend des tas de choses, y compris sur ce qui se passe quand on est en garde à vue, etc. Donc, quand on fait ces stages de désobéissance civile, en fait, il y a des sortes d'exercices et on se rend compte qu'on ne met pas tous la même chose derrière l'idée de violence. Hein, donc, il n'y a pas plus flou, mais enfin quand même, violence aux personnes, non, jamais. C'est vraiment un principe intangible, pas de violence aux personnes.
Même contre des gens vraiment que vous détestez.
Non. Ah ouais, non, pas de violence aux personnes, parce que c'est contre-productif, ça donnera rien. Enfin, en tout cas, c'est la ligne d'Extinction Rébellion, ça c'est la ligne rouge. Après, violence contre les biens, normalement, pas non plus. Mais il y a quand même une stratégie d'escalade, c'est-à-dire qu'il peut y avoir... Bon, c'est tout bête, hein, mais par exemple, quand on peinturlure les panneaux publicitaires, c'est du blanc de Meudon, c'est pas une peinture difficile. Ça s'enlève très vite, quoi, un coup d'éponge, etc., ça s'en va vite. Quand on colle dans la rue, c'est avec de la farine et de l'eau, parce que c'est pareil, ça s'en va vite, ça dégrade pas. Mais il y a des débats au sein du mouvement parce qu'on a bien vu que quand il y a des actes violents, du matériel cassé par ceux qu'on appelle les Black Blocs, bon, ça attire tout de suite les médias et on peut le déplorer ou pas, mais comment dire, parfois ça permet d'enclencher au moins d'être entendu par les pouvoirs publics et ça met une pression. Donc il y a des débats au sein d'Extinction Rébellion par rapport à ça. Parce que finalement, la non-violence, c'est gentil. Hein, la non-violence, pour que ça marche, on voit avec Martin Luther King, il faut que l'adversaire, il faut qu'il ait honte. Il faut qu'il ait honte. Donc ça marche par exemple, c'est bête à dire, mais si des membres d'Extinction Rébellion tout à fait non-violents se font frapper, se font embarquer et que c'est vu, alors là, ça suscite l'indignation et ça peut jouer en notre faveur. Mais personne n'a envie d'aller se faire frapper et filmer pour autant. Mais malheureusement, c'est ça. C'est-à-dire que, ça avait beaucoup indigné à l'époque quand sur le pont Sully, des activistes d'Extinction Rébellion qui étaient assis bien tranquillement et ils se faisaient gazer avec une bombe comme des moustiques, quoi. Là, du coup, ça avait fait du bien à notre cause. Mais c'est quand même dommage d'en arriver là à chercher ça. Ce que je veux dire, c'est que voilà, la non-violence, ça marche si l'adversaire est responsabilisé, se rend coupable, si on lui met la honte, quoi. Sinon, bah, tout le monde s'en fiche. Hein, ils sont gentils, font pas de mal, c'est pas grave. Voilà. À moins, là, c'est Gandhi, hein, d'être en masse, en grosse, grosse, grosse masse de non-violents.
Gandhi, il a détruit des machines aussi. Il a fait... En fait, Gandhi, il était contre l'atteinte aux êtres vivants pour des raisons philosophiques qui lui sont propres, mais tout ce qui était machine, tout ça, il n'avait aucun souci avec...
Ouais, c'est pas assez connu. Par exemple, les ludites en Angleterre, c'est les premiers métiers à tisser. Hein, c'est les tout débuts de l'industrialisation. Ben, les ludites, là, ça vient de Thomas Ludd. Casser les métiers à tisser. Ils avaient très bien compris que ça allait leur enlever du travail et aussi les aliéner dans leurs gestes parce que le savoir manuel, la compétence manuelle, ben, elle se perdait. Donc, c'est pas vrai que tout de suite, tout le monde s'est dit c'est chouette, ça va augmenter la productivité et tout ça. Non. Dès le début, les machines étaient cassées. Alors après, Extinction Rébellion, pour l'instant, non, on casse pas le matériel. Mais moi, je me rappelle à des réunions, il y a un gars qui s'est levé, qui a dit « je suis Black Bloc, salut les bobos ». Il est parti en claquant la porte. Voilà.
Et sur la question justement des violences policières, toi tu disais, bon bah quand tu nous frappes la police, du coup ça visibilise d'autres causes. Moi je suis pas sûre parce que ils peuvent toujours dire, enfin quand il y a eu la première loi travail, il y avait des cas de violences policières énormes et quand on en parlait aux gens, ils nous croyaient pas. Donc on a montré des vidéos et ils nous disaient non, peut-être vous l'avez bien mérité, gna gna gna. Et donc en fait, je pense que est-ce que vous êtes confronté à ça aussi ou...
Ouais, enfin, il y a beaucoup de gens maintenant hein, qui ont vécu des violences policières hein, avec les gilets jaunes. D'ailleurs, eux, ils s'en prennent encore vraiment plus plein la gueule que les mouvements non violents.
Ils sont non violents aussi, les gilets jaunes.
Ouais, certes, beaucoup, ouais.
Après, il y a les jeunes, les gens dans les quartiers populaires qui sont aussi, eux, c'est carrément aux faciès qui se font travailler par la police.
Mais il faut voir le film Un pays qui se tient sage. Là, il n'y a plus de doute possible. Hein. Voilà, je ne sais pas si tu l'as vu. C'est des extraits c'est tiré de films faits avec les téléphones hein, et par des manifestants. Alors beaucoup les gilets jaunes parce que ça s'est fait ces derniers temps, mais pas que. Et enfin, je pense qu'il y a moins en moins de gens qui nient le fait des violences policières. Et avec donc voilà les lanceurs de balles de défense et les grenades anti-encerclement, il y a eu beaucoup d'éborgnés et de mains arrachées. Et si des gens le nient, ben on a beaucoup de sources maintenant solides pour leur montrer que oui. Hein, c'est... Après, je suis pas anti-flic. Voilà, il y a eu un autre. Il y a beaucoup de suicides hein, parmi les policiers. Ce que je veux dire, c'est que les policiers, bon, il y en a qui dérapent. Il y a de tout parmi les policiers, mais ils reçoivent des ordres aussi. Hein, ils sont pas. C'est politique aussi ça.
La police n'a pas toujours eu une belle image, alors on changera peut-être pas la police, mais on peut changer son image. Prendre conscience de soi, c'est prendre conscience de son image. Donc il est important de faire comprendre aux policiers comment est-ce que les manifestants les voient, pour ceux qui voient encore. Alors, selon une étude que j'ai menée, certains manifestants vous voient comme racistes, incompétents et violents. Ah, et j'ai oublié, pardon, excusez-moi aussi, susceptibles. Une fois qu'on a identifié le problème, on essaie de trouver la solution. Et parfois la solution, c'est de ne pas filmer le problème.
Quand vous interpellez dans un espace public, il faut que l'un d'entre vous fasse diversion si jamais un passant ou un manifestant filme la scène. Donc là, par exemple, je suis le manifestant, je filme et action.
Bonjour monsieur, voici ma carte de police, si vous désirez la filmer afin de m'identifier en cas de problème.
Mon travail à moi, c'est de changer la forme. On peut redonner envie d'un produit juste en changeant le packaging. Hein. Knacky, bol, Tifilou, tube, Rassemblement National. On accuse la police française de devenir aussi raciste que la police américaine. Mais c'est faux, hein. Nous n'avons pas la même histoire. Donc si vous êtes témoin d'actes racistes, je vous encourage à dénoncer les auteurs de ces agissements. Et en plus, ça, c'est un peu plus raccord avec notre histoire. On a toutes les raisons d'être optimistes. Hein. On voit de plus en plus de policiers mettre un genou au sol, et ça, c'est vraiment un super symbole. Après, il faudra juste s'assurer qu'entre le genou et le sol, il n'y ait pas un manifestant.
Comme par exemple là, je pense que c'est politique qu'on dise les mouvements de non-violence, vous les laissez même pas se déployer. Comme ça, ni vu ni connu, quoi. On n'existe plus. On commence à peine, ça y est, on est déjà embarqué. Donc, je sais pas, faudra nous aussi qu'on adapte nos stratégies.
Après, il y a aussi tout un pan de la société qui considère que les violences policières sont justifiées, y compris dans les cadres politiques.
Oui, c'est sûr que là, ils partent de loin. Hein, on ne peut pas tout... Ça, c'est quoi? C'est les mainstream. S'ils regardent certains journaux télévisés, etc., qui s'en tiennent là. Hein, c'est... Je ne sais pas. Je pense qu'ils vont... Ils seront de moins en moins majoritaires.
Hein. Et après, donc, par contre, sur la question de la violence aux personnes physiques, là, c'est absolument...
Oui, là, c'est vraiment contre-productif. Hein. Après, ça se discute, hein, l'affaire... Bon, ça, c'était pas Extinction Rébellion, hein, mais l'affaire du DRH, là, auquel on avait arraché sa chemise. Voilà, parce qu'il y avait des licenciements et les ouvriers excédés, ils l'avaient attrapé. Et arraché sa chemise, etc. Voilà, parce qu'encore une fois, ça avait été diffusé beaucoup, beaucoup sur les médias. Et on pouvait quand même comprendre, leur colère. Hein. En plus, il ne l'avait pas blessé. Bon, il lui a arraché sa chemise, oui, c'est bien dommage, mais... Voilà, donc il y a des cas, c'est-à-dire que nous, c'est vraiment le principe de non-atteinte aux personnes, mais après, selon les circonstances, s'il se passait quelque chose comme ça, je pense que ce ne serait pas de la pure, ce serait jamais de la violence gratuite.
Bah, ce serait... Par exemple, moi j'ai pas mal d'amis féministes qui sont, on va dire, elles se disent abolitionnistes de la prostitution, car elles sont critiques de la prostitution. Et en fait, il se trouve que de plus en plus, moi, je connais des femmes qui ont été tabassées, par exemple, en manifestation pour avoir tenu des pancartes critiques de la prostitution, dont certaines sont des anciennes prostituées. Elles ont été tabassées justement par des gens se revendiquant de l'antifascisme.
Et bien justement, c'est complètement contre-productif. Ça les dessert. Enfin, voilà typiquement l'exemple. Ça les dessert complètement. Ça dessert complètement leur cause.
Bah, en fait, oui et non. Mais dans le sens où, justement, ils disent... nous, on peut attaquer les gens d'extrême droite, mais du coup, là, dans le cadre féministe, la question, c'est, bah, en fait, c'est qui les gens d'extrême droite? Est-ce que c'est la personne qui vient critiquer la prostitution pour des raisons qui lui sont propres, ou est-ce que c'est, et donc, est-ce que dans un sens, t'as le droit de la tabasser si t'estimes que c'est une personne d'extrême droite? Donc, tu vois, c'est ça le danger, je pense.
Non, t'as pas le droit, non. Bah non, parce qu'après, puis c'est une banalité, ce que je veux dire, mais la violence engendre la violence, et après, ça leur donne beaucoup trop d'excuses pour continuer. Non, c'est... Et en plus, c'est mal connu, mais la non-violence, ce n'est pas de la passivité, ce n'est pas de la lâcheté. C'est, et ça, c'est Martin Luther King qui le disait, hein, c'est très difficile. Hein, c'est l'action, action non-violente. C'est vraiment une action. C'est-à-dire qu'il faut s'empêcher, de réagir à des moments où on aurait envie et peut-être même les moyens d'un coup de mettre un taquet. C'est beaucoup plus difficile là, de s'en empêcher. Voilà, donc c'est vraiment entre les deux, c'est la crête, hein, c'est la ligne de crête entre la passivité par la peur, parce que là en ce moment, hein, ça y va hein, avec la peur. Hein. La passivité, la non-réactivité à cause de la peur, et puis de l'autre côté, l'hyperaction, la violence, qui donne après des excuses à l'adversaire pour réprimer encore plus. Non, c'est dur la non-violence, c'est une action qui demande beaucoup de courage, hein.
Mais surtout, le risque de la non-violence, c'est que tu t'attaques aussi à des gens avec qui tu n'es pas d'accord politiquement, sans forcément que ce soit des méchants, mais juste des gens avec qui tu es en désaccord politique, en fait.
Quoi de...
Le risque de la violence physique, c'est que ça atteint d'autres groupes, entre guillemets, politiques, quoi.
Oh bah, enfin, je sais pas, hein, là, tu parlais d'un cas un peu spécial. Hein. Moi, on ne se voit pas en milieu écologiste aller taper sur d'autres écolos qui n'ont pas la même vision de l'écologie que nous. Hein. Ça, c'est un peu particulier quand même. Hein. C'est peut-être parce que dans ces mouvements féministes, ça remet en cause, ça les fait bouger un peu trop dans leur tête. Je sais pas, c'est particulier quand même. Hein.
Il y a de plus en plus de violence ouais, dans les mouvements féministes.
Écoute, regarde-toi, t'es tout pâle, t'es vert même.
Ce qui me rend malade, c'est de voir qu'on fait pas notre travail.
Et qu'est-ce que c'est notre travail?
C'est assurer la sécurité de nos concitoyens. Arrêter les délinquants, vous savez très bien d'ailleurs.
Ah bon, tu veux arrêter quelqu'un? Ah ben dis donc, tu vas pouvoir faire un carton, hein. Tiens, la terrasse du café, là, trop longue d'un mètre, interdit, article R38-7. Cette bonne femme à poil sur l'affiche, là, c'est interdit. Article G92. La petite vieille qui traverse en dehors des clous, là, tiens, regarde là. Interdit. Le travelot, là, au coin, le travelot, interdit en dehors des périodes de carnaval. Le clébard, qui fait pas où on lui a dit de faire, au gnouf. Et les deux mecs qui fument du hache dans le passage, là, interdit. Le commerçant qui affiche pas ses prix, interdit aussi. Alors tu descends et tu arrêtes tout le monde. Allô? Voiture 26 à autorité. Envoyez une urgence, 6 quarts de police, le nouveau a arrêté 250 personnes. Eh ben, il klaxonne. C'est interdit, arrête-le.
Assassin, ça va pas, non?
Voilà, y a rien du tout.
Ah, bougez pas, ça vous assassin.
Calmez-vous, madame.
Appelez la police, dépêchez-vous, faites quelque chose.
Il est même pas réveillé, madame.
Qu'est-ce qui se passe?
Calmez-vous, police.
Je suis bien content que
vous arriviez. Alors, madame, on traverse en dehors des passages protégés? On fait du scandale sur la voie publique, c'est ça? Vous avez vos papiers? Oh, et ce moutard, il est à vous? Vous avez ses papiers aussi? Non? Bon, ben alors ça va pour cette fois-ci, mais la prochaine fois, je vous embarque. On dégage! Allez, on dégage!
Et du coup, par exemple, décrire en détail, entre guillemets, une action à laquelle tu as participé récemment, ou pas forcément récemment, mais...
En détail, oui, s'il n'y a pas tous les préparations. Alors, c'était un peu tout ça, c'était avant le Covid. Il y en a eu une juste à la sortie du Covid. Alors, en fait, la grande distinction, c'est entre action symbolique et action de blocage. Voilà, c'est vrai qu'à Marseille, on a plus fait des actions symboliques que des actions de blocage, parce qu'on est beaucoup moins nombreux qu'à Paris. Donc, les actions de blocage, il y a eu le blocage du Black Friday, le jour du Black Friday, donc, où on a bloqué le H&M. Et puis après, on est allé bloquer la Fnac. Donc, l'idée, c'était vraiment que les gens puissent pas rentrer et qu'il y ait un frein à la consommation et un trou dans la caisse d'H&M. Qui n'avaient pas non plus été choisis par hasard, hein, parce que vu où les vêtements sont fabriqués. Et puis, en même temps, il y avait... parce que les gens, il y a des gens qui râlaient, qui étaient vraiment en colère. Donc, en même temps, il y avait une distribution de tracts pour informer, puis aussi d'un petit quiz, parce que les gens ne sont pas forcément informés que, par exemple, pour fabriquer un jean, c'est des centaines et des centaines de litres d'eau, ou un truc tout bête sur le quiz. Voilà, il y avait qui se rendent compte que les gens, par rapport à 10, 20, 30 ans de ça, il y a la moitié, voire plus des fringues de leur placard qui n'est jamais utilisée. Donc voilà, c'était en même temps donc bloqué, mais en même temps sensibilisé et informé. Après, donc les gens repartent, soit ils jettent par terre tout de suite leur tract ou leur quiz, soit ils rentrent avec et ils y réfléchissent. Hein. Je pense quand même que c'est un peu des deux et que ça fait quand même un peu bouger les choses. Mais certains ne voyaient pas du tout le rapport entre l'achat de leurs vêtements et la cause écologique. Déjà, juste pouvoir établir ce lien, c'est déjà pas mal. Voilà. Après, on a bloqué une usine une fabrication de pesticides à Marseille aussi.
Ah, vous avez fait ça comment, concrètement? Par exemple, vous êtes mis devant l'usine?
On se lève très tôt. De toute façon, avant, il y a des repérages. Ça se prépare longtemps à l'avance. Hein. Il y a des repérages. Voilà, il y a des recrutements avec un site crypté. Bon. Et il y a différents niveaux d'engagement sur une action. Chacun peut cocher. Est-ce qu'il veut faire partie vraiment du barrage physique? Est-ce qu'il veut être peacekeeper, c'est-à-dire renseigner aussi bien la police si elle arrive que les gens qui travaillent là? Il y a ceux qui s'occupent du contact presse, tout ça. Donc il y a différents rôles, différents degrés d'investissement. Et après, oui, on arrive, on s'assoit par terre. On avait aussi amené des gros bidons, enfin des trucs pour faire un bloc plus important physiquement. Donc les travailleurs ne peuvent pas rentrer. Ils appellent la police. Après, la police arrive. D'ailleurs, ça, c'était pareil pour le Black Friday. La police arrive. Et voilà, au Black Friday, par exemple, si vous avez... De toute façon, on sait, hein, il y a toujours les... Normalement, il y a les sommations, il manquerait plus que ça. Hein. Et donc, on peut dégager aux premières sommations, soit on résiste. À Black Friday, on n'était pas assez nombreux, donc le temps que la police arrive, hein, ça a pu quand même, on a pu bloquer quand même une heure et demie, puis une heure et demie à la FNAC. Mais après les sommations, on s'est levé. Après, il peut être décidé qu'on reste. Pour l'usine de pesticides, on avait décidé qu'on resterait, mais donc il y a un camion plein de soufre, un camion citerne plein de soufre qui pouvait pas rentrer. Et par contre, après, donc les travailleurs, ils étaient tous groupés devant, et à un moment, ils ont disparu, et on a su qu'ils étaient rentrés par il y avait une façon d'escalader un tout petit grillage et de rentrer par une... Donc, on n'a pas bloqué leur travail. Donc, à partir de là, la police nous a laissés nous regarder. On est resté à peu près 12 heures à se regarder, comme ça, la police et nous. On avait pourtant les armes lock et tout, mais ils n'ont pas essayé de nous dégager. Donc, au bout d'un moment, de toute façon, le travail avait repris. Bon, il y avait que ce camion de soufre qui était bloqué, mais qui n'avait pas l'air pressé. On est rentré chez nous.
C'était Juste la fin d'un monde, une émission sur l'écologie politique. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure.